Voilà, chers amis, je suis content d'être avec vous ce soir et j'espère que d'autres viendront par la suite se joindre à nous. Mais j'aimerais vous donner quelques mots d'explication sur ce qu'est une exprime et ensuite sur ce que vous avez ici en bas, et ensuite nous allons parler de notre sujet ce soir, la Bible, un fondement pour la vie. Hein? Alors, je m'appelle Éric Aussac, je suis né en région parisienne, et j'ai participé à ma première expo Bible en 1983, je crois, hein, ou 4, hein, voilà. Et donc, j'ai utilisé ce moyen de communication, hein, de la parole, de la vérité biblique depuis cette époque-là. Les expos bibles ont été créées par quelqu'un qui habite dans le nord maintenant, à Arras, et qui s'appelle Peter Wheeler, et c'est depuis les années 60 qu'il a eu l'idée de mettre sur pied les expos bibles, parce que la France est un pays un peu particulier. Nous sommes un pays très riche en agriculture, en commerce, universitairement, hein, ici à Bordeaux vous êtes tout à fait gâtés, mais malheureusement très pauvre en connaissance de la Bible, hein. Et ce monsieur Peter Wheeler était un Anglais, et en Angleterre, comme en Belgique, comme en Espagne, comme en Italie, la Bible est enseignée dès l'école primaire, hein, et ça fait partie des cours normaux, le collège, le lycée, et quand vous passez votre bac, vous avez déjà une bonne connaissance de l'origine de la Bible, de son message, du peuple hébreu qui en est celui qui nous l'a donné, de l'Exode à travers le désert, etc., de Moïse, de David, etc. Eh bien, le français, malheureusement, d'une part à cause de la laïcité qui sépare tellement l'État et les églises que ça crée une sorte de mur infranchissable, une muraille infranchissable, et aussi malheureusement à cause de l'Église aussi qui en France, alors c'est pas le cas dans tous les pays, mais l'Église catholique en France a vraiment pendant de nombreuses années voulu que les gens ne lisent pas la Bible, que ce soit les prêtres qui leur expliquent, mais que les gens ne la lisent pas, hein. Alors cette situation est finie depuis plusieurs dizaines d'années, mais vous rencontrez encore plein de gens, hein, vous pouvez sortir dans la rue, est-ce que vous avez lu la Bible? Oh non, 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 non. C'est pas à moi de lire la Bible, c'est aux prêtres, c'est à l'Église, c'est pas à moi de lire la Bible. Hein, mais c'est tout à fait regrettable parce que la Bible a été donnée pour nous, elle n'a pas été donnée pour les autres, elle a été donnée pour nous. C'est une lettre pour chacun d'entre nous. Hein. Et donc, c'est pour ça que Peter Wheeler a eu l'idée de faire cette exposition biblique, exposition biblique qui explique ce qu'est la Bible, son origine, son authenticité, et je vous invite à rejeter un coup d'œil demain à l'Expo Bible qui est ici, parce que il y a certains des vieux livres et de quelques tableaux qui datent de l'époque de Peter Wheeler, et donc un jour quand quelqu'un, un historien fera l'historique des Expo Bible, eh bien il parlera de ce sujet-là. Hein. Et donc, et puis deuxièmement, vous avez ici dans l'Expo Bible quelques éléments dont vous ne mesurez pas la valeur parce qu'aujourd'hui on n'est pas persécuté parce qu'on lit la Bible. Là vous avez par exemple une petite diapo de cette taille-là où la Bible est sur microfilm et vous pouvez le voir grâce à un microscope. Alors vous dites, mais qui est-ce qui a eu l'idée fantaisiste de mettre une Bible entière sur un microfilm? Eh bien, il y a une raison pour ça, c'est que dans les années jusque 1900, 1989, la chute du mur de Berlin, eh bien, dans tous les pays de l'Est, il n'y avait pas la possibilité de se promener dans la rue avec une Bible sous le bras. Hein. Vous aviez directement la case prison, hein, comme au Monopoly. Hein. Eh bien, grâce à ces Bibles minuscules, ils ont pu les déplacer, les transporter, les faire imprimer. Il y a des gens qui, dans leur cave, faisaient des imprimeries avec des roues de vélo, etc., pour pouvoir diffuser la parole de Dieu, parce que ça avait ça donnait valeur pour tous ceux qui en sont privés. Hein. Donc vous verrez ça en bas. Et puis, maintenant, évidemment... Il y en a même une qui a été placée sur la Lune, alors, ben dis donc, par Neil Armstrong et ceux qui sont allés la première fois. Et puis, vous avez maintenant, évidemment, la Bible informatique, je l'ai dans mon téléphone, hein, et donc, vous pouvez, grâce à plusieurs applications, que vous ayez un iPhone, un Windows Phone, ou un Android, hein, vous pouvez lire la Bible dans le téléphone, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a 10 ans, ça n'existait pas, hein, c'est tout neuf, ce genre de phénomène. Et donc, vraiment, tout ça, sont des choses extrêmement intéressantes à étudier, à découvrir, et c'est à ça que sert une expo Bible. Alors nous avons depuis 1993, hein, parce que j'ai consulté mes archives, nous avons fait des expo Bible avec une association au Pays Basque, hein, et là aussi c'est pareil, les Basques étant profondément catholiques ne connaissaient pas la Bible, et donc ça a été une découverte pour les gens, et puis ça a coïncidé avec la première édition en basque d'un petit évangile, ensuite d'un Nouveau Testament, et ça a permis aux gens, on en a distribué des milliers là-bas, au Pays Basque, ça a permis aux gens de découvrir pour eux-mêmes, hein, ce trésor, et pour la première fois, les prêtres ne leur disaient pas, vous n'avez pas le droit de le lire, maintenant ils leur disaient, maintenant vous avez le droit de le lire. Alors, ah bon, on a le droit, vous êtes sûr? Oui, vous avez le droit. Hein. Tellement ils étaient, on pourra un peu traumatiser, c'est exagéré, mais ils avaient été, ça leur avait été interdit, voilà. Hein. Alors, parlons maintenant de notre thème, la Bible, fondement pour la vie. Hein. Alors, ce qui est intéressant dès qu'on étudie la Bible, c'est qu'on rentre en contact direct avec les textes anciens et notre Bible, donc si vous en avez une dans votre main, ou si vous n'en avez pas tout à l'heure, nos amis se feront un plaisir de vous en donner une, a été écrite dans l'Ancien Testament, donc dans la première partie dans la langue hébraïque, en hébreu, et la plus ancienne partie remonte à plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, hein, du temps de Moïse. Ensuite, un petit peu a été écrit en araméen, hein, notamment par à l'époque de Daniel, hein, le grand prophète, et donc la langue araméenne qui était parlée. Et puis le grec, hein, tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Hein. Et voilà justement un problème, c'est qu'en français, quand nous traduisons la Bible, eh bien des fois on est ennuyé parce qu'on n'a pas autant de mots en français pour certaines choses que dans les langues originales. Par exemple, le mot amour. Vous avez combien de mots pour amour en français ? Un seul, et oui, en grec il y en a 3, hein, et qui donne 3 différents aspects de l'amour, 3 différentes gradations, on pourrait dire, de l'amour, et donc c'est pour ça que des fois dans la traduction on est obligé de traduire le mot et rajouter 1 ou 2 mots pour expliquer la profondeur de ce dont il s'agit. Et puis ici la vie, c'est pareil, hein, en français, pour la vie, eh bien on n'a qu'un seul mot, la vie. Hein. Alors par exemple en grec, il y a 2 mots principalement utilisés, après il y en a beaucoup d'autres. Le premier c'est le mot Zoé. Hein. Est-ce que vous connaissez les gens qui s'appellent Zoé? Hein, alors je ne veux pas faire de publicité, mais il y a une marque de voiture aussi qui vient de sortir, une voiture électrique, hein, qui s'appelle Zoé. Hein. Alors, et c'est de là que vient en français le mot zoologie, un zoo, etc. Ça vient du mot grec zoé qui veut dire la vie. Alors la vie, quelle vie? Eh bien la vie vitale, la vie animée, l'âme vivante. Et c'est une vie active et vigoureuse dont il s'agit, hein, une vie dont le principe vital, hein, est manifesté. Et puis le deuxième mot, bios. Là aussi, c'est un mot connu, si vous avez un ordinateur, je ne sais pas si vous le savez, si vous avez un ordinateur, il y a un BIOS dedans, hein. Et puis vous avez la biologie, etc. Donc tous ces mots viennent du grec BIOS, et qui veut dire la vie dans son sens le plus large. Mais là c'est une vie humaine, hein, c'est pas la vie en général, là c'est une vie humaine, la période, le cours de la vie, les ressources et tout ce qui et c'est pour ça que c'est de là que vient le mot biographie, hein. Une biographie, c'est quelqu'un qui raconte sa vie, hein, sa vie à lui, hein, et donc c'est de là que vient ce mot bios, hein, voilà. Et donc oui, la vie est quelque chose de tout à fait fondamental, parce que la Bible nous parle de l'origine de la vie, elle nous parle de la raison d'être de la vie, elle nous parle de la fin de la vie, hein, et donc et elle nous dit aussi que quelqu'un est venu nous montrer, nous manifester la vie. Et ça c'est ce que nous trouvons en Jean chapitre 1, on va pas le regarder tout de suite, mais en Jean chapitre 1, et c'est le logos, hein, le logos, là, un autre mot grec qui veut dire la parole, le principe, hein, le verbe s'est traduit aussi, et c'est Christ qui est venu nous montrer et nous parler de la vie. Alors, la Bible d'abord nous parle de l'origine de la vie, hein. Alors elle nous dit en Genèse, donc vous prenez votre Bible tout au début, la première page de votre Bible, hein, et le mot Genèse veut dire tout simplement au commencement, hein, en grec Genesis, oui, et donc ça veut dire c'est le commencement de la vie. Eh bien nous lisons ici Genèse 1, 30 par exemple. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant un souffle de vie, je te donne toute herbe pour nourriture. Et cela fut ainsi. Voilà. Qui est-ce qui a défini ce qu'est la vie, hein? Alors, est-ce qu'une roche est vivante, hein? Comment vous savez? Et c'est parce que quelqu'un l'a décidé, hein? Une fin, voilà, hein, il y a un processus vital, et c'est celui qui est à l'origine de la vie, c'est écrit dans la Bible, voilà, que c'est Dieu, hein, qui a créé ce qui est vivant, hein, voilà. Alors, Genèse 2, verset 7, hein, nous lisons, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Hein, et c'est de là que vient le mot âme, le mot être animé, etc. Et donc c'est le souffle de Dieu qui a donné la vie à l'homme. Alors vous allez me dire, oui, mais d'un point de vue scientifique, on a d'autres conceptions. Alors je me permettrai ce soir, hein, je ne le fais pas d'habitude, mais d'en parler avec humour, hein, des conceptions scientifiques concernant l'origine de la vie. Vous me pardonnerez. Hein. Voilà. Alors, je fais un petit sondage ce soir. Hein. Combien d'entre vous ont vu là, à Arcachon ou dans le coin ici, hein, un poisson sortir de l'eau sur le sable et puis petit à petit se diriger vers un arbre et monter dedans, hein. Combien d'entre vous en ont vu, hein? Vous en avez pas un seul d'entre vous n'en a vu. Alors bon, je fais de l'humour parce que c'est évidemment c'est pas comme ça qu'on fait de la science, hein, mais bon. Eh oui, parce que il y a des gens qui trouvent que dans la Bible il y a des choses difficiles à croire, hein. Les miracles, l'origine que Dieu ait tout fait, etc. Et puis il y en a qui disent oui, mais Dieu, je l'ai jamais vu. Alors comment je peux croire en quelqu'un que je n'ai jamais vu? Mais quand vous êtes confronté à l'autre explication, l'explication évolutionniste, darwinienne de l'origine de la vie, vous êtes dans le même contexte. Vous êtes obligé de croire des choses que vous n'avez jamais vues, hein, et dont un certain nombre n'ont, on n'a pas pu encore les prouver. On les a démontrés par un raisonnement, mais on ne les a pas prouvés. Hein. Et donc, c'est pour vous dire, c'est pas pour me moquer de Darwin, hein, parce que ma foi, il a fait un travail fort intéressant, mais c'est pour dire que ceux qui se moquent de la Bible oublient de se poser la question sur leur propre croyance. Hein. Croire, ben parce que, alors ici, il n'y a pas trop de choses végétales, hein, mais si je vous avais amené une rose ce soir, hein, et je vous avais dit, voilà cette rose, eh bien, quelqu'un ce matin a jeté un œuf par terre et c'est devenu cette belle rose. Hein. Vous diriez, c'est pas possible. Hein. Parce que quelque chose d'aussi beau et d'aussi parfait ne peut pas surgir du chaos ou de la destruction. Hein. Et pourtant, c'est ce qu'on nous raconte. Hein, que du chaos et de la destruction, tout ce qui existe autour de nous est arrivé, hein, du néant. Hein. Alors, c'est quand même fort de café. Hein. Et donc, l'explication de la Bible n'est pas si étonnante que ça. La Bible nous dit qu'il y a une intelligence, un esprit, un être vivant qui est à l'origine de toute chose et qui a tout fait en le pensant. Ça ne s'est pas fait par hasard, ça ne s'est pas fait par accident, ça s'est fait avec une volonté réelle. Alors vous voyez que la vie, hein, la Bible parle de l'origine de la vie, elle donne une explication à l'origine de la vie. Vous la croyez, vous ne la croyez pas, libre à vous, mais ne croyez pas que les autres explications sont plus faciles à croire. Hein. Et d'ailleurs, j'ai dans la voiture un traité qui a été fait par un de mes collègues. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Hein. Parce que l'athéisme, alors là, c'est pas la même chose que l'évolution, hein, mais c'est une théorie, là aussi. Comment est-ce que vous vivez toute votre vie sans croire à l'existence de Dieu et en croyant que tout vient du hasard, que tout vous est tombé dessus comme ça, l'amour de votre mère, les problèmes, les succès, les difficultés, les maladies, les guérisons, les échecs, les réussites, tout ça, ça vient du hasard. C'est quand même fort de café. Hein. C'est, moi, je comprends pas les gens qui vivent comme ça. Hein. Et donc, oui, la Bible nous donne un message sur la vie, sur l'origine de la vie, et elle nous dit des choses tout à fait extraordinaires. Alors, si on reprend maintenant dans le livre de Jean, évangile de Jean, alors là, c'est la même chose, mais d'un point de vue philosophique, parce que les Grecs s'étaient posé beaucoup de questions sur l'origine de l'homme, et ils avaient cherché, eux, l'âme de l'homme, l'intérieur même de l'homme, et ils avaient trouvé que l'homme était déterminé, toute sa vie était déterminée par un mot qu'on ne peut pas traduire en français. C'est pour ça, dans certaines Bibles, il traduit la parole, et dans d'autres, il traduit le verbe, mais en fait, c'est un mot qui est le logos et qui va beaucoup plus loin que nos mots français, la parole et le verbe. Et nous lisons ici, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Moi je crois que c'est vrai, je crois que c'est vrai. Au commencement était la parole, c'est-à-dire que Dieu a parlé il a pensé, il a vu, il a voulu, et c'est pour ça que tout existe, parce que Dieu l'a voulu, il l'a pensé. Et c'est pareil, hein, devant moi, vous voyez, j'ai ici une sorte de pupitre, hein, et bien, ce pupitre est-il surgi du néant cet après-midi, hein? Et non, quelqu'un, un ingénieur, y a pensé, hein, il l'a fabriqué, et, enfin, il a fait les plans, pardon, et il l'a envoyé dans une usine, et il a fait plusieurs parties, des parties plastiques, caoutchoutées, métalliques, il y a de la peinture, c'est très compliqué, hein, et c'est, quelqu'un a pensé toutes ces choses. À l'origine, il y avait la parole, à l'origine, il y avait la pensée, et elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, hein. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors oui, ce que Dieu a fait dès l'origine, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux, hein. Alors, nous allons maintenant faire une rencontre. Nous allons partir en Samarie. Alors, j'ai pas amené ma carte, je l'aurai avec moi demain. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve la Samarie? Vous savez où se trouve Israël, Jérusalem, hein? Voilà, alors si vous montez, je ne sais pas, une petite centaine, hein, pas tout à fait une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem, vous arrivez en Samarie, hein. Alors je vous passe toute l'histoire parce que c'est une histoire vraiment extraordinaire, mais on ne peut pas tout résumer, hein. Mais il y avait là un peuple dans la Samarie, et un peuple qui était un peu rejeté par les autres. Les autres ne s'entendaient pas bien avec eux. Est-ce qu'il y a des peuples comme ça aujourd'hui? Hein? Hein, si je vous dis, on va aller voir les Roms ce soir, hein, vous êtes partant, hein, camp de Rome, hein, vous partez avec moi, hein? Oula, vous allez dire, mais non, ces gens-là, on les aime pas, ils sont dangereux, ils vont nous faire du mal, etc. Hein. Et bien, c'était pareil avec les Samaritains, on disait, oui, mais ces gens-là, il faut s'en méfier, ils sont dangereux, ce sont des mauvais, etc. C'était pas vrai, évidemment, mais voilà ce qu'on disait à l'époque. Hein. Eh bien, Jésus, à verset Jean 4, 4, voulait passer par la Samarie. Et il arriva là, dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils, et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Mais figurez-vous que Jésus a fait tout ce chemin parce qu'il voulait rencontrer cette femme et parler avec elle. Hein? Aujourd'hui, ce qui est important dans le monde, hein, eh bien, c'est d'être riche, de faire des voyages, d'accumuler des biens et des richesses, des connaissances. Mais pour Jésus, toute sa vie, si vous le suivez, ce qui était important pour lui, c'était de rencontrer des gens, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, et que leur vie soit transformée, métamorphosée par la rencontre personnelle du Seigneur Jésus-Christ. Et pour Jésus, n'existait pas de distinction entre les gens. À l'époque de Jésus, comme dans certains pays du monde, un homme ne devait jamais parler avec une femme, par exemple, à l'époque de Jésus. Et puis, les Juifs ne devaient jamais parler avec les Samaritains, parce qu'ils étaient ennemis. Et puis, voilà, plein d'obstacles, et pour Jésus, tout ça, ça n'existait pas. Pour lui, ce qui comptait, c'était de rencontrer cette personne. Alors, c'était une personne qui était à la recherche de beaucoup de choses dans sa vie, parce que elle cherchait l'amour. Elle cherchait l'amour, et tellement qu'elle a eu plusieurs maris, mais à chaque fois, elle a été déçue, hein, parce que si on cherche l'amour dans l'absolu, dans la perfection, eh bien, ce n'est pas chez un homme qu'on va le trouver, hein. C'est chez la rencontre personnelle avec Dieu et avec Jésus-Christ. Hein. Et alors, cette femme avait eu 5 maris, et toujours, elle n'avait pas trouvé l'amour. Hein. Elle était encore insatisfaite, malheureuse. Hein. Eh bien, elle est allée se placer là, elle est allée au puits, et Jésus l'attendait au puits. Remarquez que ce n'était pas par hasard, puisque ce puits, c'était celui de Jacob, c'est-à-dire un puits qui avait été creusé 1400 et quelques années auparavant par le patriarche Jacob avec ses fils. Ça, c'est pas n'importe quel puits, c'est le puits de Jacob. Et Jésus s'est trouvé là, auprès de cette femme, et il lui a demandé quelque chose de tout à fait simple, donne-moi à boire. Hein. Mais ça peut vous paraître simple hein, comme question. Eh bien, pour cette femme, c'était révolutionnaire. Elle lui a dit, mais comment est-ce que toi qui es un juif, tu m'adresses la parole à moi qui suis une samaritaine? Comment est-ce que toi qui es un homme, tu me parles à moi qui suis une femme? Elle était bouleversée. Hein, et elle trouvait que ce n'était pas normal. Mais Jésus lui a dit, si tu savais qui est celui qui t'avait demandé à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et de l'eau vive. Hein. Alors, le Seigneur lui dit, mais la femme a répondu, mais tu n'as rien pour puiser, parce qu'à chaque fois, évidemment, Jésus parlait des réalités spirituelles, hein, il ne parlait pas des réalités matérielles. Hein. Alors d'abord, cette femme a des objections, et aujourd'hui encore, on trouve ces mêmes objections. Alors premièrement, la femme a donné une objection à Jésus, et elle lui a dit, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même et ses troupeaux ? Es-tu plus grand que lui ?» Hein? Alors là, cette femme s'adresse au sujet de la tradition religieuse. Hein? Et chacun d'entre nous, je pense, hein, nous sommes issus d'une tradition religieuse catholique, protestante, j'ai plein d'amis juifs, musulmans et autres. Hein? Mais est-ce que de s'inscrire dans une tradition religieuse, c'est ce que Jésus voulait apporter à cette femme? Parce que les Samaritains avaient leur propre religion qui était très intéressante, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, hein. Il y a encore des gens qui pratiquent la religion des Samaritains. Mais Jésus n'était pas venu discuter de la valeur d'une religion par rapport à une autre. C'est ce que vous verrez dans l'expo Bible, vous ne verrez pas une discussion pour dire que le protestantisme est supérieur au catholicisme ou que le judaïsme est supérieur à l'islam, hein. Ce n'est pas le but, hein. Le but c'est de présenter le message de Dieu pour l'homme, qui est la Bible, la parole de Dieu, et le fait que Jésus est allé auprès de ce puits pour rencontrer cette femme, et que Jésus, à travers sa parole, souhaite vous rencontrer, vous aussi, hein, et vous toucher et modifier votre vie. Comme on dit aujourd'hui, impacter, vous connaissez ce mot? C'est les nouveaux mots qu'on emploie, hein. Impacter votre vie, c'est-à-dire amener vraiment une différence, hein, dans votre vie. Hein. Donc, Jésus n'est pas venu apporter un discours religieux. Remarquez qu'il n'est pas venu non plus amener un discours moralisateur, parce que il lui a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, j'en ai pas, et Jésus lui a dit, oui, tu as eu raison, tu en as eu 5, et maintenant celui avec qui tu vis n'est pas ton mari, hein. Alors la femme lui a dit, je vois que tu es prophète, hein, voilà. Mais Jésus lui a pas dit non, hein. Ce que Jésus voulait, c'est que cette femme se repente de ses péchés, hein. Mais si cette femme était restée avec un seul mari, hein, est-ce qu'elle n'aurait eu aucun péché pour autant, hein? elle aurait eu d'autres péchés dont elle aurait eu à se repentir. Et donc, Jésus n'est pas venu accuser une personne comme étant plus pécheresse qu'une autre. Il est venu appeler tous les hommes à la repentance, comme l'a fait Jean-Baptiste, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus aussi est venu appeler cette femme à la repentance. Alors ensuite, elle a apporté une autre objection, et elle a dit, voilà, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus, c'est pareil, lui a dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, etc. L'heure vient, verset 23, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors aujourd'hui, quand on parle de la Bible, on peut se poser la même question. Où doit-on adorer Dieu? Certains disent, mais là où il faut adorer Dieu, évidemment, c'est à Rome. C'est Rome qui est le centre de tout. Non. C'est Jérusalem. C'est Jérusalem où il faut adorer Dieu. Non. C'est la Mecque. C'est la Mecque où il faut adorer Dieu. Pour cette femme, c'était le mont Garizim, pour la religion samaritaine, et encore aujourd'hui, chaque année, à peu près au moment de Pâques, eh bien, les Samaritains font le sacrifice d'un agneau sur le mont Garizim, qui est là, et si vous visitez un jour cette région, c'est facile à trouver, vous cherchez la pelouse. La pelouse, c'est connu, c'est en Palestine, et vous avez, donc, à la pelouse, vous avez le puits de Jacob. Il est toujours là, le puits où Jésus est allé, et d'ailleurs les orthodoxes grecs sont en train de construire carrément une basilique au-dessus de ce puits pour le protéger. Et puis vous sortez de la pelouse, alors à l'époque c'était un village de rien du tout, aujourd'hui c'est une ville palestinienne, il y a des dizaines de milliers d'habitants. Vous sortez de la ville, vous avez juste devant vous, c'est pas une grande montagne, ça fait 700 mètres, le mont Garizim, vous allez de l'autre côté, vous avez le mont Ebal. Ces montagnes sont déjà mentionnées dans le livre du Deutéronome, parce que déjà Josué y avait amené le peuple d'Israël pour prononcer les bénédictions et les malédictions, et donc c'est de ces mêmes montagnes que, juste à l'ombre entre guillemets de ces montagnes, que Jésus se trouvait et qu'il a dit à cette femme, non, ce n'est pas ici sur le mont Garizim, non, ce n'est pas à Rome, non, ce n'est pas à Jérusalem, non, ce n'est pas à, qu'est-ce que je dis, à Mecque, qu'il faut adorer Dieu. Là où il faut adorer Dieu, c'est en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et aujourd'hui, le Seigneur veut rencontrer chaque personne individuellement. Que vous puissiez faire un pèlerinage ou non, c'est pas son problème. Là où j'habitais, au Pays Basque, pendant plusieurs années, j'étais sur le chemin de Compostelle. Alors vous aviez des pèlerins qui passaient devant la maison. D'ailleurs, pas loin d'ici, vous avez le relais de Compostelle, qui était un ancien relais, là aussi, sur un des chemins de Compostelle. Et en venant, je suis passé, donc en quittant la Normandie, je suis passé devant le Mont-Saint-Michel. Là aussi, c'était une des étapes importantes sur le chemin de Compostelle. Mais alors c'est un très beau pèlerinage, d'ailleurs il est inscrit, je crois que c'est au patrimoine de l'humanité, ce pèlerinage, mais ou européen, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui... il n'est pas nécessaire d'aller à Compostelle. Dieu cherche à vous rencontrer là où vous êtes et à ce que vous puissiez devenir adorateur en esprit et en vérité. Alors nous allons voir les réponses que Jésus a fait à cette femme. Et vous allez voir, c'est très, très subtil et en fait c'est très simple ce que Jésus lui a dit. Premièrement, verset 10, verset 13, verset 14 dans notre passage. On va lire 13 et 14, Jésus lui a dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif, l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible, comme on l'a vu tout à l'heure, nous donne l'origine de la vie, hein, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme, la femme, et a soufflé en lui l'esprit de vie. Hein. Mais Jésus est venu apporter beaucoup plus que cela, et il est venu apporter la vie éternelle. Pas seulement la vie terrestre, mais la vie éternelle. Hein. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et tout à l'heure, le jeune homme, j'ai oublié votre prénom. Voilà, hein, est venu me voir et m'a demandé, mais dans ces thèmes-là, il n'y a pas quelque chose qui a rapport avec un verset de la Bible? Alors, je lui dis que non. Mais effectivement, ici, dans le thème de la vie, eh bien, ce que Jésus a dit, ça a un rapport, et il m'a cité le verset, hein, Jean chapitre 14, verset 6, hein, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Hein. » Effectivement, la femme voulait poser à Jésus des questions très compliquées sur l'histoire, sur les religions, sur l'origine, sur sa propre vie aussi, hein, mais Jésus lui a dit des choses beaucoup plus simples. Il lui a dit, je suis la vie, je suis la vie. Et la question que je vous pose ce soir, est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ? Est-ce qu'il est votre vie? Car si vous l'avez rencontré, c'est lui qui est à la source et à l'origine de la vie. Hein, nous lisons en 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Hein. Alors, avoir le Fils, c'est simplement l'avoir rencontré, le connaître et avoir une relation véritable, sincère et spirituelle avec lui. Deuxièmement, nous lisons un peu plus loin, verset 18, verset 23, verset 24, Jésus lui dit, leur bien. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Hein? Alors là, c'est une des paroles qui est très souvent reprise par les politiciens. Hein. Jésus a souvent dit, en vérité, je vous le dis. Hein. Mais quand un politicien vous dit, en vérité, je vous le dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est en train de vous mentir. Hein? Oh, j'exagère un peu. Mais souvent, hein, voilà. Mais quand Jésus a dit, en vérité, et c'est lui qui avait le pouvoir de dire la vérité, parce que la vérité, il la connaît vraiment. Hein. Et il a dit à cette femme, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans notre verset, hein, je suis le chemin, la vérité, la vie. Hein. Et donc, la vérité n'est pas une vérité religieuse de Rome, de Jérusalem, de la Mecque ou d'ailleurs. Hein. La vérité, c'est la vérité de Jésus-Christ, c'est une personne. C'est la rencontre avec une vraie personne. C'est la rencontre avec celui qui est la source et l'origine de la vie. Et puis, troisièmement, versets 25 et 26, nous lisons, la femme lui dit, mais elle était au courant. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Elle cherchait le chemin et Jésus ne lui a pas dit, ah ben le chemin c'est là, va à Jérusalem. Il lui a pas dit, le chemin c'est ici, va au nord. Il lui a dit, je suis le chemin. Hein, c'est moi le Messie. Hein. Et ça, c'est le message de la Bible. La Bible est comme un enseignant, un pédagogue, un professeur qui nous amène à rencontrer... Excusez-moi, avec mes grands gestes, j'ai débranché l'appareil. Micro, c'est le vert ou le rouge, excusez-moi. C'est le rouge. Ouais. C'est pas que je ne l'ai pas abîmé. Excusez-moi. Alors, c'est comme un pédagogue pour nous amener à rencontrer une personne, et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, et c'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Nul ne vient au Père que par moi. Mais quand Jésus a parlé à cette femme au bord de ce puits, eh bien, il savait que quand elle aurait entendu toutes ces choses, elle partirait dans son village pour annoncer aux autres les choses merveilleuses qu'elle avait vues et entendues. Voici un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Hein. Et les gens de son village sont sortis pour voir Jésus. Hein. Jésus n'a pas quitté son puits, mais les gens du village sont sortis pour le rencontrer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Jésus était venu pour ça, il était venu pour elle, et il était venu pour ces gens, ces Samaritains de son village, pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Et il a dit aux disciples, ne dites pas, verset 35, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et donc, le Seigneur était très heureux. Donc, ces Samaritains sont sortis et ils ont dit d'abord, c'est à cause de ce que la femme nous a dit que nous avons cru. Mais ensuite, c'est à cause de ce que toi tu as dit. Et Jésus est resté plusieurs jours avec ces Samaritains et ces Samaritains sont devenus des croyants parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, cette rencontre de celui qui a créé l'univers entier, qui a créé la vie, mais qui a voulu venir rencontrer les hommes et les femmes que nous sommes, et pour nous aider, nous aussi, à rencontrer la vraie vie, à ne pas nous attacher à ce qui est l'apparence de la vie, mais à rencontrer la réalité de la vie, et la réalité de la vie, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, qui est le créateur de la vie, et il est aussi celui nous donne la vie, mais la vie éternelle. Alors, quel genre de vie éternelle est-ce que Jésus donne, hein? Parce que là, les gens ont du mal à comprendre des fois quand on dit la vie éternelle. Mais ils disent, mais c'est pas, on va tous mourir. Qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle, hein? Eh bien, la question se situe dans la définition de la vie. Hein? Quand vous demandez aux gens, qu'est-ce que c'est pour vous la vie, hein? Eh bien, pour la majorité des gens, la vie, c'est quoi? Eh bien, c'est manger, c'est dormir, c'est le plaisir, le travail. Hein? Voilà comment les gens définissent la vie. Hein? Les loisirs, les voyages. Hein? Mais pour Dieu, c'est pas du tout ça la définition de la vie. La vie, c'est ce que nous avons vu au début, c'est-à-dire la partie immatérielle de l'homme, la partie spirituelle de l'homme, la partie qui est une âme vivante. Dieu a soufflé dans l'homme l'esprit de vie et il est devenu une âme vivante. Et c'est en cela que l'homme a une telle valeur, hein, incontestablement, les plantes sont vivantes, hein, mais elles ne sont pas animées d'une âme vivante, hein, et Dieu a mis en l'homme une âme vivante qui est la plus précieuse partie de la vie, et il veut que nous-mêmes nous puissions le rencontrer personnellement et avoir un changement et une transformation totale dans notre vie, rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, qui est le créateur et l'origine de la vie. Alors, chers amis, je vous invite à regarder de nouveau ce texte Bible, hein, avec des yeux neufs, hein, et à voir vraiment tout ce que Dieu a permis, tout ce que Dieu a dirigé. On pourrait parler de la transmission des Écritures avec comment les manuscrits ont été recopiés de siècle en siècle jusqu'à nous aujourd'hui, comment les prophètes ont reçu la révélation, etc. Mais déjà aujourd'hui, nous parlons du fondement de la vie. Eh bien, notre vie vient de la parole de Dieu. Et juste un dernier point, on en reparlera encore demain avec le sujet, demain soir, de l'éthique. Hein. Mais qu'est-ce qui donne aujourd'hui la valeur d'une vie humaine, hein? Est-ce que j'ai le droit, si quelqu'un ne me plaît pas, d'aller prendre un pistolet ou un couteau et de le tuer comme ça? Est-ce que j'ai le droit, hein? Pourquoi? Parce que la vie humaine a une valeur, hein? Et elle a une valeur extrême, elle a une extrême valeur, hein? Et vous savez que quand nous avons des otages qui sont dans des pays où il y a des prises d'otages, eh bien pour que ces otages reviennent en France, on dépense combien? Hein, des millions, hein, parce que ça vous montre la valeur de la vie d'un homme. Des fois, vous avez, hein, récemment, il y a des otages qui étaient retenus depuis 3 ans. Hein. Vous vous rendez compte que depuis 3 ans, vous aviez des soldats, des agents secrets, des tas de gens qui cherchaient à retrouver ces gens qui ont consacré des heures et des années, parce qu'une seule vie humaine a une valeur exceptionnel. Et cette vie, elle vient de celui qui a donné la vie. C'est de lui qu'elle vient. Si je coupe une rose, est-ce que c'est un drame? Pas du tout. Parce qu'elle n'a pas cette même vie, cette même âme, cette même animation divine. Mais un homme, une femme, un simple enfant, une personne âgée, hein, ça a une telle valeur, la vie d'un homme. Eh bien, c'est le Seigneur qui nous a donné cette vie. Rendez-vous compte que si vous pensez que votre vie n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de Dieu, elle a une valeur extrême et éternelle. Et pour conclure, je dirais que, et là il suffit de tourner avec, on était en Jean chapitre 1, Jean chapitre 4, il suffit de retourner une page en Jean chapitre 3, pour voir ce que Dieu a fait pour sauver la vie des hommes. Hein. Eh bien, c'est ce que nous lisons verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, ça veut dire qu'il a donné la vie de son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous vous rendez compte que pour le Seigneur, chaque homme, chaque femme a une valeur éternelle, et il voulait à tel point nous sauver qu'il a envoyé son propre fils qui est venu vivre une vie humaine pendant 33 ans sur cette terre, mourir sur la croix, ressusciter le troisième jour, et son fils a vraiment, nous a vraiment donné la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux, cette vie. Cette force vitale, ce salut éternel qui est donné par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est la condition? Eh bien, c'est de croire en lui, verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu a fait pour nous quelque chose de tout à fait extraordinaire en envoyant son fils qui est mort sur la croix. Il a vécu parmi nous et il est mort sur la croix pour nos péchés. Ressuscité le troisième jour, il est allé rencontrer cette femme samaritaine et tant d'autres gens auxquels il a annoncé la vie éternelle. Mais il nous demande simplement, non pas d'être parfait, non pas d'aller en pèlerinage au bout du monde, mais de croire, de mettre notre foi, notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, de lui donner notre vie et notre cœur et notre âme, ce dont on a parlé tout à l'heure, de nous repentir de nos péchés, de nous en détourner, de nous tourner vers lui pour être sauvés et avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi il est venu, voilà ce qu'il veut faire dans notre vie, chers amis. Et donc, c'est un grand privilège que nous avons de connaître et de rencontrer Jésus-Christ qui est la vie, qui donne la vie et qui donne vraiment la raison d'être de la vie et qui peut transformer la vie de tout ce qui s'approche de lui et qui croit en lui. Merci beaucoup.